Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Marc au chapitre 14. Et Dieu voulant, on va essayer d'arriver jusqu'au verset 31. Si jamais on n'arrive pas jusque-là, gentiment, Georges s'est proposé, non, c'est moi qui lui ai demandé, de faire la fois prochaine, là, donc au mois de mai, de faire aussi le verset 6 à 31. Alors, on va voir. Normalement, on devrait être dans les temps. Alors, je vous propose pour donc ce soir un découpage avec, il y a beaucoup de points, mais certains vont aller quand même assez vite. Et ça vaut quand même le coup aussi de les voir, parce qu'il y a des petites choses là qui sont quand même intéressantes à mentionner. Donc on verra le verset 1, Pâques et fête des pains sans levain. Est-ce que c'est la même chose ? Après, on se rend compte aussi qu'il y a des calendriers différents. Alors, il ne s'agit pas du calendrier juif et grégorien, hein, mais entre les religieux d'alors et puis aussi le plan de Dieu. On voit qu'il y a des choses qui sont différentes. Après, il nous est parlé, donc, il y a un passage où on voit Jésus qui prend un repas à Béthanie, chez Simon le lépreux, qui est voilà, un passage aussi intéressant. La trahison de Judas. Et puis, et c'est là qu'on passera peut-être un petit peu plus de temps, la Pâque, la Sainte-Cène aussi, et puis donc, Dieu voulant, l'annonce du reniement de Pierre, aussi donc, peut-être qu'on le verra, donc avec Georges, Dieu voulant aussi, dans un mois. Je vous ai fait des petits imprimés aussi, alors c'est dans ce sens, donc si vous voulez, merci, si vous voulez vous les distribuer. Et donc, on va prendre pour le moment juste le verset 1. Donc, si quelqu'un veut bien le lire.
La fête de Pâques et des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir.
Voilà. Et si je vous lis le verset 12, le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque. Donc, si on le lit aussi dans un autre évangile, voilà, la Pâque appelée la fête des pains sans levain. Donc on a l'impression que c'est la même chose. Alors est-ce que c'est vraiment la même chose ? Alors, pas tout à fait. Hein, pas tout à fait, même si déjà à l'époque de Jésus, dans le langage courant, c'était des fêtes qui se confondaient. Mais néanmoins, ce sont des fêtes différentes et on va prendre dans Lévitique. Les versets 5 à 8 du chapitre 23. Et là aussi, le premier qui l'a peut le lire.
Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel, pendant 7 jours, des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile.
Voilà. Donc le premier mois, c'était le mois de Nissan. Alors, c'est le nom d'un mois, hein, c'est pas une voiture, mais... je dis ça pour Georges, ça correspond à mars, avril de notre époque. Et donc, 14e jour, c'est la Pâque. Et ensuite, pendant 7 jours, donc du 15e jusqu'au 22, c'est ça, si mon calcul est bon, c'est la fête des pains sans levain. Voilà. Donc, c'est vraiment des fêtes qui s'entremêlent, et on voit que du temps de Jésus, eh bien voilà, c'était... pratiquement, voilà, considéré comme une seule et même fête qui, donc, durait 8 jours. C'est pas ça, je vois que tu fais une...
C'est 21,
comment ? 21, d'accord, merci, on voit qu'il est prof de maths. Donc, voilà, c'était donc des fêtes qui étaient très très proches, au point que, voilà, ça avait la même appellation. Mais on verra après, tout à l'heure, que même si toutes les deux tournent les yeux du peuple d'Israël vers la sortie d'Égypte, elles ont quand même un enseignement pour nous qui est un petit peu différent et qui est assez intéressant. Donc voilà, les deux fêtes, ce n'était pas tout à fait la même chose. Alors, On continue et on va relire le verset 1 et on lit maintenant aussi le verset 2. Et là, on se rend compte que, eh bien, il y a des calendriers qui sont différents, mais que les plans du Seigneur se réalisent toujours. Donc là aussi, si quelqu'un veut lire ces deux versets. Donc Marc 14, versets 1 et 2.
La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple.
Voilà. Donc on voit que les autorités religieuses élaborent un plan. Elles veulent arrêter Jésus, sauf que c'est la fête, donc il y a du monde. Alors apparemment, d'après certains historiens, il pouvait y avoir jusqu'à 2 millions de personnes à Jérusalem. Donc c'était quand même énorme. Il y avait une foule qui était vraiment conséquente. Et donc le problème, c'est qu'il y avait des risques. Si on arrêtait Jésus alors qu'il y avait toute cette foule, ça pouvait mal se passer parce qu'on sait que la foule était, mais très souvent, soutenait Jésus parce qu'elle avait des raisons de soutenir Jésus, soit parce qu'elle avait été nourrie, soit parce qu'il y avait eu des guérisons, etc. Et puis on le voit, hein, à plusieurs moments, on voit qu'effectivement, voilà, ça a été assez difficile pour les religieux de contester avec Jésus parce qu'il y avait la peur de la foule. Par exemple, Jésus va leur poser cette question, le baptême de Jean, de qui venait-il ? De Dieu ou des hommes ? Ils réfléchissent, si on dit des hommes, si on dit de Dieu, il va nous dire pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Mais si on dit des hommes, alors c'est la foule qui va arriver, et puis là, on va, voilà, hein, on craint vraiment cette réaction. Pareil, quand Jésus est rentré dans Jérusalem, sur un petit âne, on voit que la foule va l'acclamer. Et les religieux vont dire, mais fais taire la foule. En fait, eux-mêmes ne voulaient pas, ils avaient peur, ils ne voulaient pas faire taire la foule parce qu'ils craignaient la réaction de la foule. Et là, ils sont un petit peu dans cette... dans cet état d'esprit. Dans Matthieu chapitre 26, il y a quelque chose qui est intéressant. Parce que là, on voit vraiment le plan de Dieu. Je vous lis le verset 2. Jésus va dire, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Voilà, la Pâque a lieu dans 2 jours, le Fils de l'homme sera livré, même si c'est pendant la fête, c'est là que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Je vous lis la suite. Alors les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent, pareil comme dans Marc, que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Voilà. On élabore un plan, mais c'est le plan de Dieu qui prévaut. Et juste aussi, une petite précision, ils voulaient donc l'arrêter par ruse. Vous a-t-il dit ici, ce terme ruse qui est employé, il va être traduit ailleurs. Alors, je ne sais pas si je ne me le suis pas marqué. Mais il va être traduit par mensonge, par tromperie, par fraude. Dans d'autres versets, c'est le même mot qui est traduit par fraude, par tromperie. Et on voit un petit peu la mentalité des religieux qui pourtant auraient dû donner l'exemple. Mais voilà où ils en sont. Mais ce qu'il y a d'encourageant, c'est que c'est le calendrier de Dieu qui prévaut. Et je trouve que même pour nous, c'est quand même quelque chose qui est réconfortant. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Il y a peut-être des puissants, hein, des personnes qui sont au-dessus de nous et qui demandent certaines choses. Mais au-delà de l'homme le plus puissant, il y a Dieu. Et c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Donc voilà pour ces versets 1 et 2. Donc des petits détails qui, je trouve, sont... intéressant. Alors, on va passer maintenant Jésus qui est donc à Béthanie, chez Simon le lépreux, et on va lire les versets 3 à 9. Donc là aussi, quelqu'un peut bien les lire.
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme portant pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait.
Voilà, merci. Donc voilà, Simon le lépreux. Alors, déjà, Béthanie. Je vous ai mis une petite carte. Donc là où il y a la flèche, c'est Béthanie, parce qu'il y a une autre Béthanie qui est au nord de la mer Morte. Là, c'est Béthanie, en fait, c'est pas très très loin de Jérusalem. Et c'est le village où habitait Lazare, que Jésus avait ressuscité des morts, avec ses deux sœurs, Marthe et Marie. C'est là donc qu'il résidait. Alors, Simon le lépreux. Donc on peut supposer que c'était un homme que Jésus avait guéri. Parce que, alors, on le voit dans le Lévitique, je vous l'ai mis. Lévitique chapitre 13, versets 45 et 46. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés, il aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Donc voilà, les personnes qui avaient cette maladie, la lèpre, ne pouvaient pas être avec les autres. Donc on voit là que si Simon habitait chez lui et s'il a invité du monde, c'est que forcément il avait été guéri. Et donc il y a cette femme qui vient et qui apporte donc ce vase d'albâtre. Alors je vous ai mis là aussi une photo d'un vase d'albâtre. Alors l'albâtre c'est un marbre. Voilà, c'est un marbre. Et donc il y a plusieurs couleurs différentes, même dans la même carrière il peut y avoir des différences puisque voilà, ça arrive souvent avec les marbres. Ça a à peu près cette allure. Et rien que le vase, déjà, il a une grande valeur. Les vases d'un usage vil, ils étaient en terre cuite. Les vases de moindre valeur. Le vase lui-même a une grande valeur. Le nard pur, c'est une plante qui vient d'Asie, alors d'Inde, le Bhoutan, le Népal, la Chine aussi. Et en fait, cette plante-là, donc, on faisait une huile qui servait à fabriquer des parfums de luxe. Bon, c'était vraiment des parfums de luxe. Et dans Jean chapitre 12, on a aussi cet épisode qui est relaté. Et on voit qu'en fait, cette dame, cette femme avait un demi-litre de parfum. Donc c'était quand même une grande quantité. On va dire que c'était comme un demi-litre de Chanel numéro 5. Donc voilà, hein, c'est quand même pas mal déjà. Hein. Voilà. Et sauf que c'est même plus que cela. Hein. Si on se rappelle ce que Jean Batina nous avait dit avec le calcul du salaire, 300 deniers, un denier égale un jour de travail, 300 jours de travail. J'ai pris donc un jour de salaire de 7 heures, moi j'ai pris que 7 heures avec le SMIC, on n'est pas loin de 18 000 euros. Donc le Chanel numéro 5, il est loin derrière. Donc voilà, un parfum d'une grande valeur. Un parfum d'une grande valeur. Dans Jean 12, on voit que cette dame, c'est en fait Marie, la sœur donc de Lazare. C'est la sœur de Lazare. Et Jean précise que sa sœur Marthe sert aussi donc dans la maison de Simon le lépreux. Donc il devait bien se connaître. Et Marie, c'est celle qui brise ce vase. Et Marthe est en train de servir. Et puis toujours dans Jean, on apprend que celui qui est l'instigateur de cette grogne, hein, pourquoi elle gaspille comme ça autant d'argent, c'est qui? C'est Judas, bien entendu. Et Jean précise que Judas, en fait, il ne se soucie pas des pauvres, pas du tout. Judas, hein, tout ce qui tient la bourse, donc tout ce que l'on met dans la bourse, hop, in the pocket, il se dit, waouh, 18 000 euros qui me passent sous le nez, hein, c'est une honte. Et donc voilà, il va grogner. Et malheureusement, eh bien, quelques disciples vont le suivre. Et ça, c'est vraiment dommage. Et Marie, elle, déjà, bon, on se rappelle qu'elle était assise au pied du Seigneur, dans un épisode précédent, et qu'elle écoutait Jésus, et que lorsque sa sœur est venue dire à Jésus, mais on a dit lui de m'aider, Jésus a dit, mais elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et on voit en fait que pour Marie, c'est Jésus en premier. Et là, c'est la même chose. C'était vraiment un épisode qui nous pousse à regarder Jésus, c'est Jésus la priorité. Et là, l'épisode nous dit absolument pas que Jésus ne se soucie pas des pauvres. On voit dans la vie de Jésus que c'est pas vrai. Hein. Il se soucie des pauvres. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, voilà, la cause première de toutes les difficultés, eh bien moi, l'agneau de Dieu, je viens pour régler cela. C'est pour ça que c'est lui la priorité. Et tout le reste va en découler, bien entendu. Tout le reste va en découler. Il ne s'agit pas d'être contre un ministère en faveur des pauvres, non, non. En fait, lui, il va toucher, il va soigner la cause de toutes les difficultés. Et cette priorité que nous enseigne Marie ici, dans notre vie, rien ne doit aussi changer cela. Notre priorité, ça doit être aussi Christ et Jésus-Christ. Mmh. Et puis, il va donc annoncer sa mort prochaine dans cet épisode. Il va donner aussi un détail qui est très très intéressant. Et parlant donc de Marie, il va dire « Elle a fait ce qu'elle a pu. » Elle a fait ce qu'elle a pu. À l'époque, les femmes étaient dévalorisées. Elles ne pouvaient pas faire grand-chose, elles n'avaient pas beaucoup de moyens. Et elles étaient méprisées souvent par les hommes. Jésus n'a pas cette attitude et va montrer cette femme comme un exemple. Elle a fait ce qu'elle a pu. Voilà. Peut-être qu'on ne peut pas faire grand-chose pour le Seigneur. Il ne nous demande pas forcément de faire des choses extraordinaires. Il nous demande de faire ce que nous pouvons. Et c'est lui qui fait le reste. Et ce qu'il y a de beau, c'est que cette femme, eh bien, elle accompagne l'annonce de l'Évangile encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, eh bien, nous en parlons. Et encore aujourd'hui, eh bien, on peut vraiment la prendre comme exemple. Et puis, ces disciples qui ont suivi Judas, en fait, là aussi, c'est un exemple pour nous. Ils ont prêté l'oreille au propos de Judas. Alors, c'est vrai que pour eux, Judas, c'était un des leurs. Et on le voit dans d'autres épisodes, que même lorsque Jésus va annoncer que c'est lui qui va le trahir, ils ne comprennent pas. Malgré tout, s'ils avaient fixé leur regard sur le Christ, ils auraient pu voir la réaction de Jésus. Et sûrement qu'ils n'auraient pas suivi la trace de Judas pour critiquer aussi cette action de cette femme. Et là aussi, pour nous, c'est quelque chose qui est important. Voilà, c'est toujours prendre toutes les circonstances avec le regard du Seigneur. Et comment pouvons-nous le faire? Eh bien évidemment, en regardant à Christ. Et comment pouvons-nous regarder à Christ? On en revient toujours au même, en le contemplant dans la parole de Dieu. Voilà ce qui doit donc être primé sur tout le reste. Regardez à Christ, fixez nos regards sur Jésus. Alors, on avance un petit peu et on va donc maintenant arriver donc à la trahison de Judas. Et là, alors, il y a des versets qui ne se suivent pas forcément. Si quelqu'un veut lire les versets d'abord 10 et 11, et après les versets 17 à 21.
Judas Iscariote, l'un des douze, alla trouver les chefs des prêtres pour leur proposer de leur livrer Jésus. Sa proposition les réjouit. Et ils promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus.
Le 11 aussi. Oui, le 11 aussi, et puis ensuite... comme je n'ai pas la même... Pardon. Et les 17 et à 21, excuse-moi.
Le soir, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, il leur dit... Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. À ces mots, ils devinrent tout tristes et l'un après l'autre, ils lui dirent, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Alors il reprit, c'est l'un des 12, un qui trempe son morceau dans le plat avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Mais malheur à celui qui le trahit, il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né.
Oui. Alors, je voulais aussi juste, merci Odile, je voulais juste aussi dans Matthieu, juste des versets à ce sujet. Alors, l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Et quand on lit ces discours, on a vraiment l'impression qu'en fait, pour Judas, de voir ce parfum, pour lui, c'était perdu. De ne pas pouvoir s'empocher ses 18 000 euros, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà, trop, c'est trop. Et donc, il a décidé, voilà, je tourne la page, c'est fini, Jésus, je lui tourne le dos, et eh bien, il décide de le trahir. Et quand on réfléchit à Judas, il a assisté à tellement de miracles, à tellement d'enseignements du Christ. Il a vu aussi la réaction des autres disciples lorsque Pierre a dit « Mais tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Il a vécu des choses qui sont extraordinaires. Et je me dis franchement, il devait quand même être certain, d'un côté, que Jésus était le Messie promis. Et il a choisi, malgré cela, eh bien, d'être contre le Seigneur. Et c'est quelque chose qui est dramatique. Et c'est pas, il n'y a pas que Judas, hein. Regardez Hérode, lorsque les mages viennent le voir, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux sages où le Messie doit-il naître. Donc il sait parfaitement que c'est le Messie envoyé par Dieu qui vient de naître. Et il décide malgré tout de se mettre contre Dieu. Et on le voit aussi lorsque il y a des scribes et des pharisiens qui sont auprès de Jésus. Jésus a chassé un démon, ils vont lui dire « Mais c'est par le prince des démons, Belzébuth, que tu chasses ces démons. » Et Jésus leur dira « Bien, tout blasphème contre le Saint-Esprit ne pourra être pardonné. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils savaient très très bien, ils voyaient, mais malgré cela, ils choisissent d'être contre le Seigneur. Et c'est ce que Judas a fait aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui est terrible. Voilà. En fait, pour Judas, au départ, il pensait que le Messie était celui qui allait mettre dehors les Romains. Il devait se dire, voilà, il règnera sur le peuple. Et moi, si je suis avec lui, ben, peut-être que j'aurai une bonne place. Hein. Je serai peut-être Premier ministre. Hein. D'ailleurs, ils avaient discuté en chemin de savoir qui était le plus grand. Et je pense que lui devait aussi bien discuter à ce niveau-là. Hein. Ben, c'est moi qui aurai la meilleure place après le Seigneur. Et si je peux même l'éjecter, je serai... Voilà. Hein. En fait, il ne suivait pas Jésus par amour. Et il n'a jamais laissé son cœur être touché par la parole du Christ. Et quand... on lit notamment dans Jean, chapitre 13, versets 21 à 30. Oui, voilà, c'est ça. Je vous le lis. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. C'est terrible. Parce que, enfin, imaginez si Judas voilà, avait fait ce choix de se dire « Mais voilà, j'ai vécu tellement de choses avec le Seigneur. » Je lui dis, non, Seigneur, je ne veux pas prendre le morceau. Aide-moi, Seigneur. Je pense que, voilà, il y aurait eu une possibilité. Mais Judas a pris le morceau. Et là, c'est notre frère Jean qui parle souvent de point de non-retour. Et voilà, là il y avait, Satan est entré dans Judas. Mmh. Et le Seigneur savait parfaitement ce qui allait se passer. Il va même lui donner un ordre. Ce que tu dois faire, fais-le promptement. Et ça nous montre que, même, voilà, les plans de l'ennemi sont sous le contrôle de notre grand Dieu.
Oui.
Sont sous le contrôle de notre grand Dieu. Mais malgré tout, on voit que même si Jésus connaissait cela à l'avance, il y a vraiment une douleur pour lui aussi. Il y a quand même une douleur aussi. Il y a des passages qui nous en parlent. Je vous ai mis aussi dans Jean, chapitre 6, je vous lis juste le verset 64. « Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point, qui ne croyaient point, pardon, et qui était celui qui le livrerait. Mais le fait de savoir n'enlevait rien à la gloire du Seigneur. Et un autre endroit aussi, il va dire, mais voilà, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Et l'un de vous est un démon. Voilà. Et l'un de vous est un démon. Voilà. C'est quelque chose qui est tellement dramatique de voir jusqu'où l'endurcissement peut mener le cœur de l'homme. Et il va dire aussi dans Jean chapitre 13, le verset 18, je vais vous lire le verset 18, et je vais vous lire dans la version Semeur 21, parce qu'elle est quand même très très intéressante. Et donc là, ce sont des paroles que le Seigneur reprend du psaume 41. Il va dire, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. Vous croyez que moi, je suis. Donc là, le Seigneur affirme sa divinité. Mais on voit, voilà, celui avec qui, celui qui mange le pain avec moi, a levé le talon contre moi. Et on voit vraiment, on discerne la tristesse du Seigneur à ce niveau-là. 30 pièces d'argent, vous le savez. Alors 30 pièces d'argent, 120 jours de salaire. C'est ce qui a été payé à Judas pour livrer le Seigneur. 120 jours de salaire, oui, environ 7200 euros pour maintenant. Dans l'Exode au chapitre 21, on le sait, c'était le prix d'un esclave. Et il nous en est parlé aussi dans Zacharie au chapitre 11. Je vous ai mis les références. Et on voit donc avec Matthieu la correspondance, puisque c'était dans Zacharie, il nous est parlé du potier. Et on voit dans Matthieu, avec cet argent, les religieux juifs ont acheté le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Et donc, voilà, il a été vendu pour le prix d'un esclave. Donc voilà, donc on va avancer. Et on va prendre maintenant donc ce cinquième point avec la Pâque et la Sainte-Cène. Et on va d'abord lire les versets 12 à 16, toujours donc dans Marc chapitre 14, versets 12 à 16.
Le premier jour des pains sans levain où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître dit « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque.
Voilà. Alors les précisions, hein, aller à tel endroit, etc., suivez un homme qui porte une cruche d'eau, ça a fait débat. Ça m'a même un petit peu étonné. Parce que certains pensent qu'en fait le Seigneur avait déjà donc pris un contact avec un habitant qui donc lui promettait une pièce pour préparer la Pâque et que donc pour être discret, parce que les autorités voulaient se saisir de lui, et bien ils avaient convenu d'un signe, voilà, mon serviteur portera une cruche d'eau, etc. Bon, peut-être, mais moi je penche pas pour cette explication. Je pense que là on est en face de la souveraineté du Christ, du Seigneur. Parce qu'on l'a vu dans d'autres épisodes, quand le Seigneur envoie ses disciples, il leur dit, mais vous allez à tel endroit, il y aura un anon sur lequel personne n'est monté, hein, vous le prendrez, puis si on vous dit pourquoi vous le prenez, vous direz simplement, vous répondrez, le maître en a besoin, on vous laissera aller. Et les choses se passent comme le Seigneur l'a donné. À un autre moment aussi, ils doivent payer, hein, un disciple et le Seigneur doivent payer un droit de passage. Et le Seigneur dit, va, tu vas pêcher, le premier poisson que tu vas attraper, il y aura dedans un stataire avec lequel tu pourras payer pour toi et pour moi. Donc on voit vraiment dans tous les évangiles la souveraineté du Seigneur. Et moi, ça, je l'ai toujours compris comme là également étant la souveraineté du Seigneur. Voilà, il sait qu'il y a un homme qui est de bonne volonté et qui va accepter de prêter la chambre haute à ses disciples. Alors, donc, Pierre et Jean, on le sait par l'évangile de Luc, que c'est Pierre et Jean, vont préparer la Pâque. Simplement, il faut savoir aussi que pour les Juifs, la Pâque, c'est une fête qui est d'une importance capitale. Et c'est vraiment le souvenir de la sortie d'Égypte. Et encore aujourd'hui, pour les religieux juifs, il en est ainsi. C'est vraiment la commémoration de la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que lorsque le Seigneur se présente dans l'Ancien Testament, très très souvent, il ne va pas se présenter comme étant « voilà, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant », je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dans Lévitique, je me suis mis juste une référence, Lévitique chapitre 11, l'Éternel donne des lois, et à la fin il dit « mais voilà, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Et c'est vrai que la Pâque rappelait que le peuple avait été épargné de la mort, parce qu'un agneau avait été mis à mort. Je pense que, malgré tout, il faut lire le texte. Hein. On va prendre dans Exode chapitre 12, versets 1 à 15. Même si après je raccourcis les commentaires, on va quand même le lire, parce que même si on le connaît, c'est quand même tellement important de lire ce texte pour encore s'imprégner de ce moment tellement important qui, pour les chrétiens aussi, est tellement important, puisqu'il tourne nos yeux vers l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, comme dira Jean-Baptiste. Quelqu'un peut lire des versets 1 à 15 ?
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte : ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites : le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau et un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël.
Voilà. Donc, c'est un texte que l'on connaît très très bien. Un moment qui est particulier, et c'est sans doute le plus important pour le peuple d'Israël, mais quel magnifique exemple aussi pour nous qui tournent nos yeux vers le Seigneur Jésus, parce que c'est vrai qu'il nous est précisé que d'abord c'est un jugement contre les dieux d'Égypte. Il y a un prédicateur qui avait donc donné la correspondance entre toutes les plaies et les dieux des Égyptiens. Et c'était vraiment frappant de voir vraiment ce lien qu'il y avait entre toutes ces plaies et les divinités égyptiennes. Et malgré cela, eh bien, le peuple et le pharaon en particulier se sont tendus aussi. Voilà. Et on sait aussi, on le redit, on l'a entendu encore il n'y a pas si longtemps que cela, que si l'ange exterminateur est passé par-dessus les maisons des Israéliens qui n'ont pas été donc frappés, si la mort ne s'est pas arrêtée chez eux, c'est parce que la mort était déjà passée, hein, et que le sang avait été appliqué. Et Dieu va nous dire absolument pas, je vais voir votre souffrance, je vais voir vos bonnes actions, je vais voir ceci, je vais voir cela. Non, je verrai le sang et je passerai outre. Et cela nous montre aussi que nous sommes sauvés par grâce, et c'est parce que nous sommes couverts par le sang de Christ que, eh bien voilà, le jugement n'est pas pour nous, et que la mort n'est pas pour nous, parce que la mort est déjà passée, elle est passée sur notre Seigneur Jésus, comme ça a été le cas aussi pour les Israélites, la mort était déjà passée. Et je vous ai mis donc ce verset de cette parole de Jean-Baptiste, « Voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et quelque chose d'intéressant aussi concernant la Pâque et la préparation de la Pâque, on revient donc à la préparation de la Pâque, et toujours, alors, la semaine dernière, on a parlé, je vous ai cité souvent Flavius Joseph, et selon toujours cet historien juif, la tradition voulait que l'agneau était abattu, était donc mis à mort, aux alentours de 15 heures. Et quand on lit dans l'évangile de Luc, les versets 44 à 46, du chapitre 23, je vous l'ai dit, il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Donc la sixième heure, c'est midi, la neuvième heure, c'est 15 heures. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », et en disant ces paroles, il expira. Voilà, à 15 heures, le Seigneur est mort, et voilà, et c'était la coutume voulait que c'était l'heure à laquelle, eh bien, on avait l'habitude de mettre à mort aussi l'agneau. Alors, il nous est parlé, on a vu aussi, donc, dans ce qu'on a lu dans Exode, la fête des pains sans levain. Et la consigne était d'enlever toute trace de levain de la maison. Est-ce que vous savez d'où vient probablement, c'est de forte probabilité, l'expression ménage de printemps? Bon, il y en a qui ne connaissent pas cette expression, parce que le ménage, c'est pas pour eux. Mais bon, ménage de printemps, en fait, ça vient de là. Ça vient de là. C'était donc l'habitude de rechercher, et ça s'est même après accentué, de rechercher la moindre trace de levain dans la maison. Et la tradition voulait que c'était qui faisait, voilà, hein, c'était la femme qui faisait, voilà, qui faisait cela. Mais quand même, hein, l'homme participait. Hein. Donc pour que l'homme participe, la femme mettait un petit peu de levain à un endroit bien précis, voilà, et puis l'homme avec une petite spatule voilà, mettait donc ce levain sur la spatule, et puis après allait apporter cela à la synagogue. Donc voilà, il participait aussi, mais en grande partie c'était la femme qui faisait cela, et c'est encore une tradition aujourd'hui. Mais on sait vraiment que le levain, eh bien, représente dans la parole de Dieu le péché. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et on y reviendra dessus. On va avancer. Donc je vous ai mis quand même, voilà, je vous ai mis ces versets, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et c'est merveilleux, parce qu'en fait, la Pâque, c'est l'agneau qui est mis à mort, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est notre salut. Et puis ensuite, il y a la fête des pains sans levain, avec le levain qui doit disparaître, et c'est aussi notre sanctification. Et c'est vrai que c'est l'œuvre de Christ. Hein. Jésus-Christ a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification. Je vous l'ai mis dans la version sommaire, il me semble. Mais c'est également notre part. Hein. C'est l'œuvre du Seigneur pour la sanctification, notre marche. Hein. Mais c'est aussi notre part, faites disparaître le vieux levain. Donc nous avons aussi notre rôle, hein, en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons été sauvés par grâce, par l'œuvre de Christ uniquement. Mais nous avons aussi une responsabilité d'avoir ce désir de marcher en sainteté, bien entendu, pas par nos propres forces, mais avec la vie de Christ en nous, qui seule nous permet d'avoir cette marche dans la sainteté. Alors, je reprends un petit peu. Oui, le temps passe très vite, on va continuer. On va lire les versets 22 à 26. «
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna, en disant, « Prenez ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. » Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu.
Merci. Alors, on a vu donc dans l'Exode que le Seigneur a donné des directives très précises hein, de la façon de rôtir l'agneau. Avec, il y avait aussi des herbes qui devaient être là. On se doute que les disciples ont préparé la Pâque en suivant scrupuleusement ces consignes. Et, alors, il y a aussi la tradition qui s'est invitée. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la tradition, eh bien, quelque part, alors que ce n'est pas la parole de Dieu, mais elle n'est pas contre, mais ce n'est pas la parole de Dieu, mais la tradition montre aussi Jésus-Christ. Et je vais vous donner un exemple, vous verrez. Mais si on lit ce passage dans Luc, on se rend compte qu'il nous a parlé de deux coupes. D'accord ? Jésus prit d'abord la coupe, il la leur donna, ensuite il prit le pain. Et après, à nouveau, il prit la coupe. Ici, il nous est parlé juste du pain et de la coupe. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 11, un passage que nous lisons très très souvent, Paul explique, il retient le pain et également la coupe. En fait, il y avait plusieurs coupes qui étaient utilisées. 4 coupes et même 5. La cinquième, je ne l'ai pas marquée. Alors, 4 coupes. J'essaie de faire vite, mais quand même, je trouve que c'est intéressant aussi. La première coupe, c'était la coupe de sanctification et d'action de grâce. Avant de commencer le repas, c'était la coupe que l'on prenait. Et il y avait, bien sûr, des lectures qui étaient faites, et qui sont faites encore aujourd'hui. Et donc, c'était vraiment demander au Seigneur de bénir ces moments, ce repas, et puis aussi des louanges et des actions de grâce. Voilà. Après, la deuxième coupe, c'était pour se souvenir des plaies d'Égypte. Alors les plaies, c'était les Égyptiens qui avaient subi ces plaies. Mais vous savez que le vin, c'est un signe de joie. Et pour les Juifs, il n'était pas question de se réjouir des plaies des Égyptiens. Donc la tradition voulait et veut qu'on trempe le doigt dans la deuxième coupe et on enlève un petit peu de vin. Pour enlever un petit peu de joie et pour voilà, participer aussi à ces terribles plaies qui ont frappé l'Égypte. On mangeait aussi des herbes amères. Et ces herbes amères également étaient là pour rappeler la souffrance que le peuple a vécue en Égypte. Mais également, il y avait une pâte qui était là, et qui est toujours là d'ailleurs. Alors d'ailleurs, juste avant que j'oublie, je vous ai mis un QR code où il y a une vidéo. Vous savez qu'on avait un frère qui devait venir pour nous expliquer tout cela. Donc j'ai trouvé une de ses vidéos, et si vous voulez la voir, lui il explique beaucoup mieux que moi, vous pouvez commencer à la voir. Je pense que certains, les plus anciens, se rappellent aussi des moments qu'on avait passés avec Jacques Buggenheim. Tu te rappelles, hein, on avait mangé, il avait expliqué tout cela aussi, bien mieux que moi. Donc voilà, je ne suis pas forcément le plus légitime pour vous apporter ça. Si je me trompe, vous n'hésitez pas à me reprendre, mais c'est juste pour avoir quelques bases, voilà. Donc il y avait cette pâte qui était faite avec du miel, des figues, avec des amandes aussi, qui étaient sucrées, qui étaient très bonnes, et qui est là pour rappeler que malgré la souffrance, eh bien, il y a de l'espérance. Parce que le peuple en Égypte attendait celui qui allait venir les délivrer. Il y avait donc cette espérance. Et c'est beau parce que pour nous aussi, nous avons une espérance, nous passons par des moments difficiles ici-bas, mais nous avons une espérance parce que notre cité à nous est dans les cieux. Voilà. Alors, voilà. La troisième coupe. Voilà. La troisième coupe, qui était le moment le plus important, c'était la coupe de la rédemption. Alors, le pain, c'était du pain sans levain, qui s'appelle le matza, un truc de ce style-là. Et j'essaie de retrouver dans mes notes, est-ce que quelqu'un connaît l'aficomane ? Est-ce que vous avez entendu parler de l'aficomane ? Non ? Alors, je vous explique ce que c'est. C'est une tradition qui est pratiquée encore aujourd'hui par les Juifs, donc, qui veulent donc suivre un petit peu et qui fêtent la Pâque. Alors, l'aficomane, là, j'ai pris simplement des images sur Amazon. Qu'est-ce que c'est cela ? C'est un petit sac dans lequel on va mettre trois pains. D'accord ? Trois pains sans levain. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le peuple n'a pas vraiment d'explication pour cela. Les Juifs n'ont pas vraiment d'explication. J'ai trouvé des explications de la part de rabbins, etc., mais qui sont un petit peu contradictoires. Mais pour le chrétien, je trouve que c'est bien, et je pense que c'est un clin d'œil du Seigneur qui continue à parler à son peuple aussi. Parce que trois pains, pour quelle raison ? Mais nous, ça nous fait penser à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ça va plus loin. On prend le pain du milieu. Les autres restent cachés. Et on prend le pain du milieu et on le sort. Et je pense que je vous avais mis un verset. J'ai pas mes notes là. Il faut que je me reprenne mes notes parce que je vais... Bon, sinon... c'est pas grave. Je vais faire comme ça de tête. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Donc, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Mais on voit Jésus-Christ. Donc, ce pain du milieu qui est sorti, il est visible. Ça va plus loin. Ce pain, il est brisé en deux. Et donc, vraiment, ça nous montre Jésus-Christ qui a été brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous a fait tomber sur lui, il a été brisé pour nos péchés. Voilà. Ce pain brisé, il est caché dans un linge blanc. Et on le cache. Et ensuite, on va le ressortir à la fin du repas. Alors c'est un enfant qui le fait, il y a des explications particulières avec lesquelles vraiment on n'est pas d'accord, notamment la pureté de l'enfant, et on sait que non, pas du tout. Mais on le ressort, et là on va le manger. Parce qu'on va le manger à la fin du repas, parce qu'il faut qu'on ait ce goût dans la bouche, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et ça, donc, voilà, au moment de la troisième coupe, on brise le pain, on le cache, et à la fin du repas, on va manger ce pain qui a été donc récupéré par un enfant et qui ressort. Et quelque part, là aussi, le pain qui est caché, ça nous fait penser à Jésus-Christ qui a été mis à mort, qui a été mis dans le tombeau, et qui est ressuscité. Et vous voyez, c'est une tradition qui n'a pas vraiment d'explication, mais qui est intéressante parce qu'elle nous montre quand même Jésus-Christ, c'est une illustration de Jésus-Christ, et je suis persuadé que le Seigneur parle aussi à son peuple à ce niveau-là. Voilà, là je vous ai mis les versets. Je vous ai mis les versets dont je vous parlais. Et donc la dernière coupe, c'est la coupe de la louange. Et très rapidement, pour la Sainte-Cène, alors je voulais parler de la tradition catholique, on va le passer. Simplement, je vous cite, si jamais vous discutez avec quelqu'un qui est donc de tradition catholique et qui pense, alors c'est la transsubstantiation, pas facile à dire, donc la substance change. Et pour la religion catholique, il en est ainsi par le truchement du prêtre, le pain, c'est toujours du pain, ça ressemble à du pain, ça a le goût du pain, mais en fait, sa substance, c'est plus du pain, c'est le corps du Christ et la coupe. C'est la même chose. Sauf que lorsque Jésus a donné cette directive à ses disciples, il était là, il n'avait pas encore été mis à mort. Et puis, il y a Hébreux qui nous dit qu'il est réservé. Parce qu'en fait, le Christ est sacrifié à chaque fois que l'on mange le pain et que l'on boit la coupe. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, et il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, tout est accompli, il s'est offert une seule fois. Et il ne peut pas y avoir un sacrifice, comme c'était le cas dans l'Ancienne Alliance, qui est de nous renouveler à chaque fois, il s'est offert une seule fois. Autre chose aussi, simplement, dans le langage, très très souvent, on va parler du pain et du vin. Quand vous prenez les passages qui parlent de la Sainte-Cène, il n'est jamais parlé du vin. C'est toujours soit la coupe, soit le fruit de la vigne. Alors c'est un petit détail. Simplement, ça nous montre qu'on a une liberté de prendre soit du vin. Pour Jésus et les disciples, c'était du vin, c'était Pâques. Et à Pâques, il n'y avait pas de moyens de conservation pour avoir encore du jus de raisin de l'année passée. Voilà. Donc on sait que c'était du vin, mais c'est pas mentionné. C'est la coupe ou le fruit de la vigne qui nous montre qu'il y a cette liberté et que ceux qui voudraient s'arc-bouter, se dire non, c'est du vin et pas autre chose. Eh bien, se trompe de combat, finalement. Donc c'est un repas où nous voulons nous souvenir de ce que le Christ a fait pour nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est tellement important. On a fini le chapitre 13 avec cette consigne du Seigneur, veillez, hein, veillez et priez. Et là, on a ici, avec la Pâque, avec la Sainte-Cène, un moyen pratique de veiller, hein, et de prier aussi. Voilà, c'est un moyen que Dieu nous donne pour nous souvenir de son œuvre. Et nous voulons le faire vraiment avec cette conscience que voilà, c'est quelque chose qui est particulier parce que ça tourne nos yeux vers le Seigneur. Il n'y a pas de consigne quant à la fréquence, mais on sait que les premiers chrétiens le faisaient voilà, régulièrement, ils persévéraient dans la fraction du pain. C'est aussi un message d'espérance parce que ça tourne nos yeux également vers le retour du Seigneur. Il va dire, j'en boirai, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive du nouveau lorsque je serai dans le royaume des cieux. Donc c'est aussi voilà, une espérance. Et c'est aussi une communion. Et les passages de Corinthiens que je vous ai mis ici nous en parlent. Vous les retrouvez sur la petite feuille que je vous ai donnée. Voilà. Mais là aussi, il ne faut pas mal le comprendre. Il y a ce verset dans 1 Corinthiens, que j'avais prévu de lire plus tard, chapitre 11, qui nous dit que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, ils mangent du pain et prennent de la coupe librement. Et c'est un pléonasme en fait, que chacun s'éprouve soi-même. Voilà, hein, chacun s'éprouve soi-même. Voilà. Et pourtant, malgré cette insistance de Paul, très souvent on va le lire que chacun éprouve l'autre. Hein. Et presque, avant de prendre le pain, on regarde là, oh, qui c'est qui le prend ? Oh là là là, celui-là il le prend, oh, 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 je ne prends pas parce que hein, je risque d'être contaminé. Pas du tout. Je vous ai mis une petite image, je ne sais pas si là vous la voyez bien. On voit le soleil avec des rayons. Les rayons sont tous en contact les uns avec les autres, en communion, on pourrait dire, les uns avec les autres. Par quel biais ? Parce qu'ils sont en contact avec le soleil. Eh bien, il en est ainsi avec nous. Nous sommes en communion les uns avec les autres, mais nous ne sommes en communion que si nous sommes en communion avec Jésus-Christ, qui est celui qui nous lie, qui est celui qui nous unit. Et donc, si quelqu'un n'est pas en communion avec le Christ, je ne veux pas être en communion avec lui. Donc, je n'ai pas à m'interroger sur mon frère, ma sœur, sur une personne qui serait là. Non, je suis en communion avec mon frère, avec ma sœur, parce que je suis uni uniquement par Jésus-Christ. Et bien sûr qu'il nous a dit hein, que chacun s'éprouve soi-même. Il y a des avertissements. Après, Paul va continuer avec des avertissements. Et avec Georges et Benjamin, il nous est arrivé d'aller voir des frères et des sœurs pour dire, mais là, t'es dans une situation qui n'est pas normale, donc voilà, ne prends pas la Sainte-Cène, parce que c'est sérieux, et il faut que tu règles cela avant de continuer ainsi. Voilà. Mais ce que je veux souligner surtout, c'est que voilà, c'est vraiment, nous sommes en communion les uns avec les autres, parce que c'est Christ qui nous met en communion les uns avec les autres. Et baisser 20 heures, oui, c'est aussi, on se rappelle aussi de cette alliance, hein. Là aussi c'est un symbole, hein. Mais un symbole qui est fort, hein, l'alliance que le Seigneur a fait avec nous, la nouvelle alliance. Là, j'ai un anneau au doigt, hein, c'est rien. Hein, mais voilà, c'est une alliance, mais voilà, c'est rien. C'est juste un petit anneau, mais qui rappelle quelque chose qui est beaucoup plus important. Et il en est ainsi que lorsque nous prenons la Sainte-Cène, un jugement aussi, et Paul nous en parle dans Corinthiens chapitre 11, et puis aussi des actions de grâce. Voilà, mais on va s'arrêter là. J'avais prévu d'autres choses, mais le temps passant très très vite. Et donc, bon, mais merci Georges pour du rouler un peu plus fort, faire l'annonce de la trahison du reniement, pardon, de Pierre. Donc, voilà.
Il a déjà prêché sur ça.
Voilà. Donc,
c'est la télévision.
on va arrêter là. Est-ce que quelqu'un veut prier pour terminer ces moments?
Ô Seigneur du Tout-Puissant, nous voyons, Seigneur, que à travers ta parole, il n'y a pas de hasard. Tout est sous ton contrôle. Même l'ennemi, Seigneur, qui croit faire des choses par lui-même, par son intelligence, Seigneur, tu as tout le contrôle. Tu savais qu'il allait agir de telle ou telle façon et il n'y a pas, Seigneur, de choses qui soient à côté. Il n'y a pas de petits détails, Seigneur, que tu n'aies prévu et cela nous réconforte, Seigneur. Cela nous donne une merveilleuse espérance, une foi solide, parce que nous ne pouvons rien craindre, Seigneur, parce que tout est sous ta main, tout est sous ton contrôle. Tu es souverain en toutes circonstances, Seigneur. Quel que soit ce que nous vivons, Seigneur mon Dieu, tu es le maître, tu es celui qui guide les pas, qui guide nos pensées, qui guide nos cœurs. Et nous te remercions, Seigneur, pour ton règne dans nos vies. Que nous puissions encore continuer en cette soirée à méditer, Seigneur, sur toutes ces petites choses, Seigneur, qui nous émerveillent. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Bon retour à...